Banco Pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, vos réactions sur l'élection présidentielle du mois d'octobre en Côte d'Ivoire et cette question qui est dans tous les esprits: Alassane Ouattara va-t-il briguer un quatrième mandat? En tout cas, le président sortant fait durer le suspense. Il a été désigné samedi candidat par son parti. Hier, lors du meeting de clôture du congrès du RHDP, le chef de l'État a souligné qu'il se donnait encore quelques jours de réflexion pour prendre une décision. Alors, vrai ou faux suspense, nous lançons le débat ce matin. Vous nous rejoignez, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et vos commentaires toujours aussi nombreux sur WhatsApp et sur Facebook. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, nous allons répondre à vos questions après les frappes américaines sur les trois principales installations nucléaires iraniennes. Donald Trump s'est vanté d'une réussite militaire spectaculaire. Les dégâts sont monumentaux, a-t-il assuré. De son côté, l'Iran menace les États-Unis de représailles. Un conseiller d'Ali Khamenei a affirmé que les États-Unis devaient s'attendre à des conséquences irréparables. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en géopolitique à Sciences Po Paris. Vous publiez aux éditions Odile Jacob « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer ». Frédéric Ancel, avant de passer au standard et de répondre aux auditeurs, 24 heures après les frappes américaines, êtes-vous toujours aussi optimiste que le titre de votre ouvrage « La guerre mondiale n'aura pas lieu » ?
Ah mais plus que jamais, cher monsieur, d'abord parce que, et j'ajoute qu'elle ne sera même pas régionale. On a affaire en réalité à un conflit bilatéral Israël-Iran. Les États-Unis, certes, viennent de frapper au sens strictement militaire du terme, mais pour l'instant, en tout cas, ils ne portent pas l'effort sur les régimes de manière générale. Et dans la région, absolument aucun État n'a ni la volonté, ni la capacité d'entrer dans cette guerre. Et j'ajoute un dernier point, Moscou et Pékin, contrairement à ce que j'entends et ce que je lis, trop souvent de la part d'observateurs trop paresseux, Moscou et Pékin ne sont pas alliés de l'Iran. Ça n'a pas de sens. Le terme est trop galvaudé. En l'occurrence, il n'y a pas d'alliance militaire en faveur de l'Iran. Donc, évidemment, ce conflit ne peut pas déboucher sur une guerre mondiale.
Bon, en parlant de la Russie, il se trouve que depuis hier soir, le ministre iranien des Affaires étrangères est à Moscou. Il a prévu de rencontrer aujourd'hui même Vladimir Poutine. Vous allez avoir le temps, durant les 15 prochaines minutes, Frédéric Ancel, justement, de développer votre analyse en répondant aux questions des auditeurs. On accueille Alphonse, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Merci beaucoup Juan. Je salue Margot et Chloé qui travaillent dans l'ombre.
Ah, merci de vos encouragements pour l'équipe. Quelles sont vos questions, Alphonse?
D'accord Juan. Pourquoi Donald Trump s'est-il enfin décidé à entrer en guerre contre l'Iran alors que j'ai dit qu'il s'était donné 2 semaines de réflexion?
Ah, bonne question. Frédéric Ancel, c'était une posture?
C'est une question vraiment centrale et le problème c'est qu'il est très difficile d'y répondre au regard de l'imprévisibilité absolument constante de ce président dont on connaissait déjà les phrases, puisque je rappelle quand même qu'il a déjà été président pendant 4 ans. Donc en réalité, le tout, je vais vous dire, il y a deux hypothèses. La première hypothèse c'est qu'il jouait en quelque sorte un jeu un peu duplice, qu'il savait que les négociations ne mèneraient à rien, qu'il avait déjà décidé de soutenir Israël à condition qu'Israël pendant au moins une semaine fasse déjà entre guillemets le sale boulot consistante à évacuer l'intégralité de l'espace aérien iranien. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui serait quand même beaucoup plus grave, c'est qu'il a pris sa décision, un peu comme souvent quand même, ces dernières années, ces derniers mois, de manière très aléatoire, sans qu'il en soit convaincu quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques heures auparavant, pour aller là aussi au secours de la victoire israélienne, mais surtout pour démontrer à Pékin, à Moscou, aux pétromonarchies du Golfe, qu'ils ne plaisantent pas et que les États-Unis sont de retour au Moyen-Orient, notamment pour défendre le traité de non-prolifération nucléaire de 1968.
Pourtant, Frédéric Ancel, Trump a toujours dit que les États-Unis n'avaient pas vocation à intervenir militairement au-delà de leurs frontières.
Alors attention, cher monsieur, je pense que depuis quelques jours, on se trompe d'éléments. Il s'agit pour Trump de ne pas envoyer des soldats au sol. Pourquoi ? Mais oui, parce que l'opinion publique américaine est vent debout contre une nouvelle intervention qui mènerait manifestement au rapatriement de soldats dans des boîtes en bois sur des aérodromes militaires américains. Mais là, il s'agit entre guillemets que d'un bombardement militaire. Je rappelle d'ailleurs que Trump, numéro 1, dès son arrivée au pouvoir, avait bombardé une base syrienne, après la propulsion par Bachar al-Assad, à nouveau, de gaz neurotoxique. Donc il n'a pas dit qu'il n'interviendrait pas. Il a dit, on peut penser notamment à sa fameuse annexion du Groenland ou à sa rivière à Gaza, mais il dit qu'il ne rapatriera pas de soldats tombés sur un front.
Des bombardements, oui, mais pas de militaires américains déployés au sol. Grâce nous rejoint, il est à Pointe-Noire. Bonjour.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à toute l'équipe de RFI et à Margot et Chloé.
Nous vous écoutons avec Frédéric Ancel.
D'accord, merci. En fait, j'avais une question. De combien de bombes a nécessité pour bombarder le site fortifié de Fordo, comme l'a annoncé Donald Trump?
Oui, les fameuses bombes GBU-57. Que savez-vous, Frédéric Ancel?
Alors, a priori, il y a eu 2 à 3 avions U-2, donc les seuls au monde à pouvoir transporter des bombes de plusieurs tonnes, et chacun peut en transporter 2. Alors, vous faites le calcul, on doit être autour d'une douzaine de bombes propulsées sur Fordo. Par ailleurs, d'autres chasseurs bombardiers américains plus conventionnels ont bombardé les sites d'Ispahan et de Natanz. Donc sur l'ensemble, et là vous avez pratiquement 140 appareils. Hein. Donc là c'est extrêmement important. En fait c'est l'un des bombardements aériens les plus rapides, les plus massifs de l'histoire contemporaine, et il est vraisemblable que ça ait permis aux Américains au monde entier, du point de vue de la non-prolifération, de gagner un certain nombre d'années en vue d'une possible acquisition de la bombe par le régime iranien.
Oui, Donald Trump assure que les dégâts sont monumentaux. Le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a annoncé une réunion d'urgence ce lundi, estimant à l'heure actuelle impossible à ce stade donc d'évaluer l'étendue des dégâts. Christophe, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Au Cameroun, nous vous écoutons.
Alors Juan, l'Iran a annoncé avoir déplacé des stocks d'uranium déjà enrichis malgré les frappes américaines. J'aimerais savoir, n'y a-t-il pas un risque que l'Iran parvienne à fabriquer une bombe nucléaire?
Vous y croyez, Frédéric Ancel, lorsque les Iraniens assurent avoir protégé une partie de leur uranium enrichi?
Oui, oui, j'y crois parce que ils sont pas les fanatiques qui sont au pouvoir en Iran ont beaucoup de défauts, mais ils ne sont pas stupides et ils savent parfaitement que tactiquement, techniquement, il était possible pour les Israéliens et donc le cas échéant pour les Américains de frapper Fordo. Et par conséquent, ils ont démontré d'ailleurs ces dernières années une véritable souplesse, notamment dans le transport et dans la dispersion de leur matériel et de leur matière fissile. Néanmoins, je pense qu'il est moins jamais possible pour l'Iran après une semaine de frappes israéliennes manifestement efficace. Alors après, évidemment, on ne sait pas exactement par définition, et personne ne peut le savoir, même les Iraniens, quelle est l'ampleur très précise des dégâts. Mais ce qui est sûr, c'est que même en déplaçant tout ou partie de ce qui reste de leur matière fissile et de leur matériel, ils ne peuvent pas construire de bombes aujourd'hui. Et je pense que quand je vous parlais de quelques années, il n'est pas du tout impossible qu'on ait gagné plusieurs décennies avant que ce régime puisse se doter d'une bombe atomique, si tant est qu'il soit encore au pouvoir dans quelques années.
Oui, d'autant que le président Trump n'exclut pas un changement de régime à Téhéran. C'est encore l'une de ses dernières déclarations dans le courant de la nuit. On repasse au standard, 33 9 693 693 70. Bonjour Tidiane.
Bonjour Juan.
À Nouakchott, en Mauritanie, nous vous écoutons.
Juan, j'ai une question. L'Iran se dit prêt à se défendre pour tous les moyens. A-t-il les moyens militaires pour faire face aux États-Unis?
Alors, l'Iran se dit prêt à se défendre par tous les moyens, Frédéric Ancel. Tous les moyens possibles et nécessaires. Je reprends le verbatim des officiels des autorités iraniennes. L'arsenal militaire iranien, il s'est considérablement réduit depuis 10 jours.
Non seulement il s'est considérablement réduit, mais de toute façon, pour filer la métaphore classique du joueur de cartes, dans le jeu iranien, sur le plan militaire, il n'y avait pratiquement que des missiles.
Alors, ils étaient 2000, en nombre important. On dit 2000.
Oui, c'est ça, entre 2000 et 2500. Une partie très importante, vraisemblablement, les deux tiers ont déjà été soit propulsés sur Israël, et donc par conséquent, on n'en servait qu'une seule fois, soit détruits. Des lampes de lancement, des rampes de lancement ont été détruites également. Donc il leur reste effectivement une capacité de nuisance régionale, mais elle n'est pas très importante. Donc moi, je crois davantage à la tentative d'entraver la libre circulation maritime dans le détroit d'Ormuz, hein, dont je rappelle que le rail maritime est extrêmement étroit. C'est environ 20% du pétrole mondial. Mais là, la flotte américaine et sans doute les flottes occidentales y mettraient, à mon avis, au bout de quelques jours, un assez bon ordre.
Et donc, excusez-moi, de quelle façon, Frédéric Ancel, l'Iran peut bloquer le détroit d'Ormuz ?
De façon extrêmement simple, vous projetez quelques centaines de barges de ciment et de ciment et de béton et vous les faites couler au milieu du rail maritime. Vous ajoutez quelques centaines, quelques milliers de frêles esquifs et de zodiacs pilotés par des fous de Dieu avec des explosifs et vous vous jetez sur les supertankers ou sur les méthaniers. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, on serait potentiellement très très gêné, comme d'ailleurs on l'est, je dis on, la communauté internationale, par les tirs de Houthi sur les méthaniers et sur les tankers qui empruntent Bab el-Mandeb pour voguer vers le canal de Suez. Mais vous voyez, même si l'économie mondiale a été gênée à la marge, fondamentalement c'est pas très important. Et puis il reste le terrorisme. Mmh. Et ça, la République islamique d'Iran nous en a habitués, y compris chez nous à Paris dans les années 80, depuis très longtemps.
Le terrorisme, les attentats, la réplique contre des bases américaines, contre des intérêts américains dans la région, vous n'y croyez pas ?
Eh ben non, j'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. D'abord parce que ces bases sont extrêmement bien protégées. Ensuite parce que...
Mais elles sont tout de même à portée de tir de Téhéran.
Non, bien sûr, mais simplement regardez, l'espace aérien, l'espace et le sol israélien sont à portée de tir des missiles iraniens, sauf que tous ne passent pas. La grande majorité, en fait, sont arrêtés. Et le système Patriot américain, il existe hein, autour des bases américaines. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, beaucoup plus politique, c'est le maintien au pouvoir. Je pense que la République islamique d'Iran, aujourd'hui, a un seul, unique et dernier objectif. C'est même pas la bombe. Ça, c'est perdu, ça. C'est de rester, c'est de demeurer. Et de ce point de vue-là, lorsque vous êtes face à Israël, bon, vous risquez de perdre encore du matériel et peut-être quelques chefs politiques et militaires. Mais si par ailleurs, vous faites face directement à un ensemble, à une série de bombardements américains sur vos dernières infrastructures, je pense que là, vous risquez de perdre le pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, je pense que Téhéran n'est pas prêt à cela.
Frédéric Ancel, professeur en géopolitique à Sciences Po Paris, il répond à vos questions ce matin en direct sur RFI. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour, Nkwan.
Au Cameroun, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Très bien. Alors, cette question israélo-iranienne, je voudrais savoir quels sont les pays alliés de l'Iran et quelle sera leur réponse aux frappes américaines.
Alors, l'Iran a-t-il des alliés militaires, Frédéric Ancel ?
L'Iran n'en a strictement aucun, ni Moscou, ni Pékin, ni les États arabes du Golfe, surtout pas eux d'ailleurs. Les seuls véritables alliés, en fait j'appelle ça des inféodés à Téhéran, c'est ceux qui ont été littéralement créés par Téhéran, c'est le Hezbollah. Mais le Hezbollah chiite libanais, il a été écrasé en octobre-novembre dernier par Israël. Mmh. Et d'ailleurs, remarquez qu'aujourd'hui, il n'intervient absolument pas, il ne tire pas la moindre cartouche. Il reste les Houthis du Yémen, enfin c'est pas une menace tactique très sérieuse. Bachar al-Assad en Syrie est tombé en décembre dernier. Je veux dire, il ne reste pas grand-chose.
Oui. Les Houthis, excusez-moi Frédéric Ancel, oui. Les Houthis du Yémen menacent de frapper les navires américains en mer Rouge.
Oui, alors en dépit du cessez-le-feu qui a été d'ailleurs conclu unilatéralement par Donald Trump. Mais là aussi, si vous voulez, c'est pas une menace tactique. De toute façon, même après le cessez-le-feu obtenu par les Américains face aux Houthis, là, le commerce mondial continue à faire le tour d'Afrique. Bon, donc de toute façon, si vous voulez, là encore, on a affaire à quelque chose, une menace assez picrocolline, en fait. Et juste un mot, si vous permettez, sur Moscou, parce que j'ai tellement lu et entendu.
Alors attendez, je me fais le porte-parole d'Ousmane, un auditeur au Niger qui nous dit, après les condamnations de principe de Vladimir Poutine, Moscou va-t-il aider Téhéran à se défendre ?
Mais certainement pas, cher monsieur. Et Ousmane a raison de poser la question. Mais il faut absolument que je vous rappelle ce que vous savez, c'est qu'en 2020, en dépit d'un vrai traité militaire, Poutine a abandonné en race campagne l'allié arménien contre l'Azerbaïdjan. Il faut se souvenir qu'en décembre 2024, j'en parlais il y a un instant, en dépit d'un vrai traité militaire qui remonte à 1959, vous vous rendez compte, eh bien Moscou a abandonné en grasse campagne également Bachar el-Assad. Mmh. Et vous croyez que maintenant, englué militairement en Ukraine, Poutine va aller dégager du matériel en faveur de l'Iran ? Non, ça n'a pas de sens.
Donc Vladimir Poutine tourne le dos à ses alliés en cas de problème ?
Ah oui, c'est même le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et j'ajoute un mot sur Pékin, ça fait environ 27 siècles J'ai pas dit 27 ans, hein, j'ai dit 27 siècles, hein, que Pékin, quelles que soient ses dynasties successives et ses régimes politiques au pouvoir, ne projette pas de force militaire au-delà de ses frontières. C'est pas maintenant qu'il va le faire avec l'Iran.
Merci Frédéric Ancel, on vous libère. Je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Bonjour Emmanuel Daoud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, de nous accorder quelques instants. On a reçu beaucoup de questions sur la légalité des frappes israéliennes et américaines. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit international. Soulé est au standard avec nous, il nous écoute à Bordeaux. Bonjour Soulé.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, merci RFI. J'aimerais savoir... comprendre pourquoi les autorités israéliennes peuvent invoquer le droit à la légitime défense alors que l'Iran ne les avait pas attaqués au préalable.
Et on peut même aller plus loin en se posant la question de savoir si les frappes américaines sont légitimes. Emmanuel Daoud, que dit le droit international ?
Alors, le droit international dit la chose suivante, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Tout État a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée. Donc, comme vous le comprenez à la lecture de cet article, il faut faire l'objet d'une agression armée pour pouvoir répliquer. Et si l'on poursuit ce développement au regard du droit international, si je n'ai pas cette agression armée, je peux avoir le mandat du Conseil de sécurité. Dans l'un et l'autre cas, s'agissant d'Israël et s'agissant des États-Unis, il n'y a pas eu de délibération du Conseil de sécurité. Et la question se pose de savoir si l'Iran avait attaqué Israël ou avait attaqué les États-Unis. Alors commençons par Israël, si vous le voulez bien.
Allez-y.
S'agissant d'Israël, on peut considérer que l'État israélien pouvait estimer, et c'est en tout cas ce qu'ont développé ses dirigeants, qu'il faisait l'objet d'une agression armée de la part de l'Iran pour les raisons suivantes, en raison du développement par ce dernier de son arsenal nucléaire.
Oui, et Israël affirme que l'Iran était à quelques jours de se doter de l'arme nucléaire, donc il fallait agir vite pour garantir la sécurité du pays.
Exactement. L'État d'Israël a été très précis sur ce point en disant que l'Iran disposait de suffisamment d'uranium enrichi et était sur le point de produire des armes atomiques dès lors qu'il utilisait déjà des missiles balistiques et donc que l'Iran à n'importe quel moment aurait pu s'en servir à l'encontre d'Israël. Ce que les autorités israéliennes ont ajouté aussi, c'était la rhétorique génocidaire de l'Iran, notamment celle de son guide suprême Ali Khamenei, qui avait décrit le mois dernier Israël comme une tumeur cancéreuse qu'il menaçait d'éradiquer, sans parler les très nombreux actes hostiles de l'Iran contre Israël pendant de nombreuses années, et en particulier ces derniers mois. Bref, du côté israélien, ils ont invoqué un état de légitime défense, et d'ailleurs une quinzaine d'États membres, dont l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas et la République tchèque, on peut dire et estimer que l'État hébreu avait le droit de se défendre face à Téhéran. Mmh. Pour autant, au regard du droit international, l'attaque israélienne contre Israël peut être contestée. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait démontrer que le pays ciblé avait la capacité et l'intention d'attaquer. Or, beaucoup de spécialistes ont fait savoir que Téhéran n'avait ni la capacité de tirer une arme nucléaire sur Israël au moment de l'attaque, ni l'intention prouvée de le faire, qui sont pourtant deux exigences cruciales pour une opération militaire anticipée.
Ouais. Alors, et je précise, Emmanuel Daoud, que l'argument avancé par Israël n'a pas été confirmé par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il nous reste 45 secondes, Emmanuel Daoud, concernant les frappes de la nuit de samedi à dimanche, les frappes américaines.
Alors là, je serais beaucoup moins nuancé. Les États-Unis, de mon point de vue, ont violé le droit international. Ils n'ont pas été attaqués par l'Iran. Ils n'ont pas eu de mandat du Conseil de sécurité. Le président des États-Unis, M. Donald Trump, s'est même passé de l'avis du Congrès. On est là dans une décision unilatérale.
Il peut le faire. Hein. Il peut le faire. Il a 60 jours pour, si les frappes se poursuivent, il a 60 jours pour, là, du coup, demander l'avis du Congrès, s'expliquer devant le Congrès. En tout cas, c'était passionnant, Emmanuel Daoud. Merci infiniment pour ce point précis du droit international. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Il est 10h30 à Paris. Merci d'être avec nous.